Boker Tov Lekulam. Boker Tov Lekulam. Il manque plein de chaises. Qu'est-ce qui se passe ici?
Il y a eu hier une Brit Mila, une grande Brit Mila. Ils ont fait un gros truc. Le professeur Teresal a décidé de ramener les chaises. Mais
il a fait merde.
Il va venir tout à l'heure à 11h. Il va nettoyer la salle. Voilà, t'es au courant.
Je suis au courant de tout. Ça fait plaisir. Tov, eh bien alors, les amis, allons-y. C'est parti. Nous sommes dans l'étude du Rav Kook dans Sefer Oroth. Alors, on avait commencé la Piska Yud, la dernière Piska de la partie Amilchama, de la seconde partie du bouquin, mais on n'avait pas terminé et donc on va la reprendre parce que c'est une Piska quand même qui est très importante et qui vient conclure finalement tout le Mahalach de Oroth Amilchama. Donc, ça vaut le coup de revenir dessus. Page Yud Zayin. Ok, Pas Yudzaïn, on est bon? Bigedulat ha'olam Be'ofa'at ha'ziv shel kedushat Yisrael be'romemuto En achiza lechol zonim Lechol ha'omdim mibachutz Levases eize mosad ha'dochek ragle or Yisrael Levatser eizo e'ara mistit mechona emunit אשר תוכל לעמוד חוץ ממציאות האומה כבודה ושיפת יקרת קודשה. Facile. Alors revenons, deux secondes. Bigdoulat haol. Quand le monde est grand. Ça veut dire quoi quand le monde est grand? Kshéshrina. Quand il y a la présence divine. Kshéyesh ofat aziv shel kedushat Israël berome muto. Donc c'est quoi cette histoire de... Ziv, Romemut, Hachem, c'est quoi cette histoire? On avait expliqué la semaine dernière que le Ziv, c'est l'éclat, le rayonnement qui vient du visage. Okay? Dans le visage, il y a un rayonnement très particulier. Okay? Ziv, shel kdushat Israël, beromemuto, c'est-à-dire Israël. Qu'est-ce que ça veut dire en français Israël? Ben, il sera un Dieu. Il sera elle. Ah non, c'est pas ça.
Yachar.
Yachar El. Yachar El à El. C'est-à-dire qu'il y a un dévoilement direct du lien avec le Créateur. Donc ça, c'est normalement. Beolam Gadol. Bigdoulat Haolam. Quand on en est là, alors, En Achiza Lechol Zonim. Lechol Omdim Mibachut. Quand Israël est sur sa terre, qu'il est fort, qu'il respecte la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors aucune influence extérieure ne peut venir nous embêter et ne peut amoindrir la lumière d'Israël. C'est quoi une influence extérieure?
Les peuples,
les différentes religions.
Les Arabes.
Pas que, non, pas que, justement. Comprenons bien, en français ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Yesh Ruach HaKodesh, quand Yesh Shrina, il ne peut pas y avoir d'autres religions.
Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ont voulu utiliser les musulmans contre les juifs et que c'est en train de se retourner contre eux.
Oui, mais ça, c'est pas nouveau.
Non, c'est pas nouveau.
C'est pas nouveau. D'où ça vient? D'où ça vient que les chrétiens se servent des musulmans pour attaquer les juifs? La racine de ça, tu la trouves où? Et savent qui quoi? Non, oui, mais aucun rapport avec Ishmaël. Et Aaron, savent qui va aller chercher la fille de Ishmaël. C'est-à-dire? Mais d'accord, mais là je ne te parle pas seulement au niveau de l'attentat. C'est-à-dire, je ne te parle pas au niveau seulement des actes antisémites qui viennent embêter Israël.
Quand ils ont voté, une partie des pays qui ont voté, ils ont dit c'est, ils vont pas tenir, ils sont entourés d'un.
Mais je ne parle pas moi. Je ne parle pas seulement du danger physique. Il y a plein d'influences qui viennent sur le. qui pourraient influencer en mal le dévoilement divin. Il y a plein de. Pas seulement les Bolelout, encore une fois. Je parle ici des influences au niveau spirituel également. C'est-à-dire, tout ce que vous dites, c'est vrai. Mais il y a aussi. Non, mais les Bolelout d'aujourd'hui, du 21e siècle, c'est une Bolelout, mais tu n'as rien d'autre. C'est-à-dire, tu as abandonné l'identité d'Israël, mais qu'est-ce que tu as rempli à la place? Rien du tout. Mais moi, je te parle de l'influence, par exemple, du christianisme, de l'islam en tant que tel, pas en tant que gens qui vont venir nous attaquer. Mais toutes ces idéologies qui pourraient venir remplacer l'idéologie du dévoilement divin. Ok ? Donc il te dit, quand tu es au top, il ne peut pas y avoir d'influence extérieure. D'accord ? Parce que c'est clair pour tout le monde que la lumière vient d'Israël.
C'est quoi être au top ?
Être au top, j'ai dit, c'est un, quand le peuple juif est retourné chez lui. Deux, quand il est fort au niveau politique. Trois, quand il est fort au niveau de sa relation avec Dieu. Quatre, quand il y a le dévoilement divin. Shrina.
Décidé par Dieu.
Voilà, bah, la Shrina, il n'y a que Dieu qui peut la donner.
Voilà, donc...
De toute façon...
Est-ce qu'il voudra bien la donner ?
Faut voir, je ne sais pas. Il nous a déjà donné le retour à la maison. Il nous a donné un pays fort. Et il nous a donné la possibilité de revenir à lui.
Alors, on a envie de croire que c'est ce qu'on va faire qui fera que la Shrina...
Ah bah, c'est évident qu'il y a une date butoir où Akadosh Baruch Hu, il emmène sa Shrina quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, c'est l'an 6000.
Qui va ?
Qui
pourrait brûler.
Brûler quoi ?
Brûler ceux qui n'ont pas été sur son chemin. Non, il y a une Shrina, c'est un...
Non ! C'est que lorsque Akadosh Baruch Hu il veut emmener son dévoilement, alors Motsi Chama Minartika, Vetsadikim Mitrapim Ba, Vershaim Donim Ba. Ça veut pas dire qu'ils vont disparaître. Ils vont, voilà, ils vont être obligés de faire Tchouva.
Hein ? Il ne le fait pas tout de suite, si le résultat s'observe sera le même.
Parce qu'il veut que tu participes.
D'accord.
Mais est-ce donc,
que sauf si...
Donc j'ai dit, il y a sauf une date butoir, on peut le faire arriver avant. C'est tout le concept de Be'ita Achishena. La Géoula, elle est soit en son temps, soit avancée. Ça dépend de nous. Ok ? Donc, quand on est au top, il ne peut pas y avoir de... En achiza le chol zonim, le chol omdim ibachutz, levases eizo mosad adochek raglé hors Israël, levatser et aramistit, ou alors une mechona émounite, de faire rentrer une nouvelle émouna dans le peuple juif. Asher tocha la mode chutz mi metziut haouma, kevoda ve shivat ikrat kocha. Ok ? Bagalout, bien sûr qu'on a eu plein d'influences, ok ? Qui ne sont pas forcément positives. Ok. Qui האור העליון וזיו הייחוד המאוחד שיסודו עליון אור אמת בבחירתו חי בו הרי הוא קשור בסגולת ישראל השם אלוהיו עמו ותרועת מלך בו. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? On nous dit la lumière Elion, donc la vraie lumière grande et supérieure. C'est quoi le Ziv Ayichud Ve'ameuchad? C'est que Knesset Israël ne fasse plus qu'un avec le dévoilement divin. C'est ce que les Mekoubalim appellent les Shem Yichud, Kutcha Berichu, Ushrinte.
On
n'avait
pas tout à fait, on est presque pas encore.
Bezrat Hashem. Maintenant, dans le langage, dans la traduction du langage kabbaliste, donc Kutcha Berichu, c'est le dévoilement divin, la Shrina. Shrinte, c'est nous, Am Israël. Et donc, il faut qu'il y ait un Yichud Meyuchad entre les deux. Comment ça marche ? Eh bien, il y a deux formes de Yichud Hashem. Réunion. Belashon Echad. Donc, il y a deux formes de Yichudim. Il y a ce qu'on appelle Yichud Elyon, et c'est de cela que parle ici le Rav Kook. Et il y a ce qu'on appelle... Elion, c'est haut.
Al.
Ouais, Elion, mais Al. D'accord. Et il y a Yichud Tarton, en bas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Yichud Elion, c'est Yud Vehe. Yichud Tarton, c'est Vav Vehe. Vous savez que le tétragramme, il est formé de 4. Yud, He, et ensuite Vav, He. Donc, Yichud Elion, c'est Yudke, et Yichud Tarton, c'est Vavke. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Yichud Elion, c'est Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, et Yichud Tarton, c'est Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vae.
Il y a un rapport entre Vavke et Baruch.
J'y viens.
Il est né à 7 mois.
C'est pas grave.
Non, c'était pour dire que Yudke, j'ai jamais deviné le rapport.
Alors c'est quoi ? Vas-y. Ah, c'est moins facile, hein.
C'est des chiens.
Yud vehei, c'est shifte ya. Les tribus d'Israël s'appellent dans le Tanakh shifte ya.
C'est une tribu de Dieu, pour moi.
Yafé. Donc, nachon. Donc, ça veut dire que Yud vehei, c'est le dévoilement divin par l'intermédiaire de shifte Israël.
Yud
vav. Non, Yud hei. Yud hei.
Parce qu'il y a le mot.
Israël. En
fait, Israël et Yah, c'est... T'as compris. Donc c'est pour ça que Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, le dévoilement de Dieu passe par Israël. Donc Yud Vehe, c'est le dévoilement par Israël. Vav Vehe, c'est Yichud Tachton, Baruch Shem Kevod Malchuto, Leolam Vaed. Mais c'est Leolam Vaed, ça passe pas par Israël. Pas forcément, du moins par Israël. Va être pour l'éternité. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas ici dans cette phrase Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Va'ed, il n'y a pas la notion d'Israël. Donc ça veut dire que normalement il faut un Yichud Meyuchad, c'est-à-dire entre Yud Vehe et Vavehe. Le titre Aram il doit être complet. Mais nous dit le Rav Kook, Bagalout, on est réduit à Yichud Tarton. Et donc bah, d'autres identités peuvent prétendre à dévoiler le divin. Ok ? Parce qu'il n'y a pas la notion d'Israël qui est mise en avant. Bah forcément, Israël est bafoué à ce moment-là.
Ça reste quand même un gros problème.
Ah oui, bah
c'est
oui.
À partir du moment où on a goûté à la galoute, c'est très difficile de la sortir de la tête, la galoute.
Alors oui et non. Non, je vais t'expliquer. Tu as raison. Mais en fait, oui et non. Et je vais te dire pourquoi tu parles comme ça. Tu parles comme ça parce que, par exemple, tu es né, si je ne m'abuse, après le décret Crémieux.
42.
Heureusement.
Ce
petit jeu. Le décret Crémieux, c'est 1870.
70.
Sur le chiffre exact ?
Ben, je vais le trouver.
Je suis
pas si. Bon, c'est dans ces eaux-là, quoi, en tout cas.
Je suis pas si vieux que ça.
T'as vu ? Donc, tu es né après le décret Crémieux.
Ouais,
donc, ça veut dire que quand tu es né en Algérie, ouais, tu étais français. Et donc, tu avais une condition de vie, bon, pas trop mal. C'est pas du tout la même chose quand un juif est né en plein milieu d'un exil terrible où le simple fait d'être juif fait que tu vas te prendre des coups toutes les 5 minutes. Je dis pas que ça a empêché. Je dis que la situation du juif avant la Révolution française est quand même sacrément moins bonne que la situation du juif à partir du moment où il a reçu l'émancipation, l'égalité des droits, la citoyenneté, et ainsi de suite. Donc, bien sûr, il y a encore de l'antisémitisme. Mais le fait que...
Excuse-moi, ce que je veux dire, quand même, ce que je veux dire par là, c'est que, bien sûr, chacun, il a souffert de tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on a appris là-bas, ce qu'on a appris en Galoute, même... Quand on vient en Israël.
Je suis d'accord avec toi. Je dis simplement que c'est parce que tu as vécu. Je suis d'accord avec toi. Je dis que c'est parce que tu as vécu à la fin de la galoute où la galoute a arrêté d'être invivable. Mais si on avait eu cette discussion avant que la galoute ne devienne un peu meilleure et qu'on serait resté en plein milieu des croisades, ben je peux t'assurer que tu n'aurais eu aucun mal à quitter la galoute. C'est-à-dire qu'au moment où la galoute elle est invivable pour les juifs, c'est un gamour de la quitter. Mais à chaque fois qu'on va arriver à la Géoula, avant la Géoula, la galoute devient sympa. Comme en Égypte où l'esclavage a terminé avant qu'on sorte d'Égypte, comme à l'époque grecque où bah, y a eu toute une période où c'était sympa d'être juif, les Grecs ils nous toléraient, et aujourd'hui où pendant près de 150 ans avant la Géoula, bah, la condition des juifs s'est améliorée. Pourquoi ? Parce que Dieu, il veut qu'on veuille sortir d'Égypte, d'Égypte et d'exil. Pas qu'on soit obligé, mais qu'on veuille sortir d'exil. Okay ? Donc, ça veut dire, c'est pas parce que tu veux fuir. C'est parce que c'est idéalement bien de sortir. Alors, tu as raison que dans la mesure où la galoute devient sympa, entre guillemets, évidemment, bah, c'est dur de quitter et d'annuler tout ça. Et donc, on comprend la phrase de Manitou qui disait, c'est plus facile de faire sortir un juif d'exil que de faire sortir l'exil des Juifs. D'accord ? Miyeridat a olam ve ashpalat aneshama a israelit.
Il ne faut pas que la cache-route te cache la route.
Nakhon, nakhon, tout à fait. Miyerida, mais il ne faut pas non plus ne pas faire la cacheroute. Miyerida ta'ola. Ve'ashpalat ta'neshama israélite. Donc c'est quoi ça? C'est l'exil. Nifrad ha'yichud ha'elyon mimekor achduto. Ve'ala lema'ala le'arakia l'ashrakim. Depuis l'exil, ha'yichud ha'elyon, il s'est séparé du yichud tarton. En d'autres termes, Israël, il est là, mais il n'arrive pas à dévoiler ce qu'est Israël Be'emet. Et donc, il est parti où, ce Yichud Elyon ? Il est parti Barakia. C'est-à-dire, Yesh, Adain, Israël, Aval Ba'Elyonim, dans les mondes supérieurs. Et c'est ce qui est mis en avant, Ba'olam Achaim, Lo Yofia, Ki Im Nige'e Azarurit, Shel Yichud Atarton. Et ce qui se voit ici, ce n'est que bah, les derniers vestiges du Yichud Tarton. Ah, c'est plus du tout aussi élevé qu'avant. Hanishav me'aborot ha-she'uvim ve'yadzarim bonogat. Et dans ce Yichud Tarton, on a dit, il y a l'influence d'autres cultures. Zeh Yichud Tarton. Donc, puisqu'il y a l'influence des autres cultures, asmanase. Alors, que faire? וכנסת ישראל תחיל ותזעק בחבליה. מה זה? מה זה? ישראל קחי cette douleur là. C'est quoi la douleur? C'est que nous on sait ce qu'on doit faire et on voit à quel point on peut pas le faire. C'est terrible. OK? Et on te dit, Anishav mi borot she'uvim. C'est-à-dire, c'est mamash, c'est pas de chez nous, quoi. On est sho'avim et zeb et makom acher. Et là, regardez ce qu'il nous dit, le Rav Kook. Oy nali ki ayyefa nafshi. Vas-y, c'est Sefer Yov. Oy nali ki ayyefa nafshi. Liot ayef, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui aurait une fatigue physique. Et qui serait en train de bâiller, ou qui aurait les yeux qui se ferment. Ça n'a rien à voir. Comment on dit être fatigué physiquement en hébreu juif? Pas en hébreu moderne de l'Ulpan.
Fatigué physiquement?
Ouais.
Ah, c'est
bien.
Comment tu dis? Oui, à l'Ulpan, tu dis Ayef. Mais qu'est-ce que tu dis tous les matins dans ta tfila? ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, הנותן... זה כי? אה, כוח. זה בין רובי, תודן כוח. מהכי תודן כוח? יעף. ליעף כוח. אינו פא? לעייף. אה, באוי, אתה שואל שכונתי למטן? תו למטן. תביאו, אני אקור צריך בתיגי, אז בואו לה. יהיה אינדיפרנס אנטר עייף ויעף. On a inversé le yud et le haïn. D'accord ? Alors, quand on veut dire fatigué physiquement, c'est yaef. Et donc, on demande tous les matins que Dieu nous donne à la yaef, corps. Mais celui qui est aïef, c'est aïefa nafshi. C'est la neshama. OK ? Alors oui, en hébreu moderne, on dit aïef pour tout le monde, mais c'est important de savoir qu'est-ce que c'est pour de vrai. Et donc on te dit Ayefa Nafshi. Razé Torah Lachitsonim Nimsaru. Oh wow. Bagalout, les secrets de la Torah ont été donnés à des étrangers. C'est de qui il parle? De quoi il parle? Oui, mais de quoi il parle exactement? Ah, la traduction de la Torah en grec, c'est pas ça. Parce que ça, c'est quand la Torah chez Birtav. La Zarim Nimtzera. Mais ce n'est pas Razé Torah. Razé Torah, c'est Torah Takabala, les secrets de la Torah. Donc, quand est-ce que c'est arrivé que les secrets de la Torah ont été donnés aux étrangers? C'est avant Madonna, le christianisme. Le christianisme. Le christianisme, c'est Razé Torah qui sont tombés dans des oreilles qu'il ne fallait pas. Arrête. C'est quoi la base de la théologie chrétienne? C'est que Jésus, c'est qui? Non. C'est le fils de Dieu.
Comme ça, il a dit.
C'est le fils de Dieu. Alors dis-moi, Bémet, d'où ils ont pris ça? Toi aussi, tu es ton fils. Et pourtant, on ne se prosterne pas devant toi.
De quoi?
On ne se prosterne pas devant toi.
Devant tout le monde?
Devant toi et tout le monde, on se prosterne?
Celui qui est proche de toi.
On se prosterne devant lui?
Pardon?
On se prosterne devant lui?
Mais pour qui pour? On se met par terre le plus bas possible.
Devant le rabbin?
Devant,
ah, devant Dieu? Ah, donc pas devant son fils?
Non.
D'où ils ont pu arriver à une théologie comme ça, où il y a un bonhomme, c'est le fils de Dieu? Parce qu'ils ont lu dans la Torah, « Béni Bechori Israël ». C'est marqué dans la Torah. Aval, un juif, quand il entend Béni Bechori Israël, il comprend bien que c'est pas moi physiquement qui sont de. Mais quand tu dis ça dans une oreille païenne de l'époque, bah on prend un bonhomme, on en fait le fils de Dieu. Tu comprends? Donc, Razé Torah, la chitsonim nimsev. Et à ce moment-là, à Torah nisrefet. À Torah nisrefet, gvilim. Gvilea, c'est Gvilea nisrafim ve'otiyot porchot. Levnei tzion ayekarim efer tachat per usam. Alors, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire de gvilim nisrafim ve'otiyot porchot ba'avir? Maze. D'où le Rav Kook qui prend cette image, qui est une image terrible. Le parchemin brûle et les lettres s'envolent. Pas Rabbi Akiva, mais c'est dans la même équipe. C'est Rabbi Hanina ben Teradion. Rabbi Hanina ben Teradion, qui fait partie de Asara Arugé Malchut, la façon dont il a été tué est une façon terrible. Qu'est-ce qu'il a fait? Enfin, qu'est-ce qu'on lui a fait, les Romains? Ils l'ont entouré d'un Sefer Torah, en mettant bien de la laine entre lui et le Sefer Torah, mouillé, pour que ça prenne plus de temps, et ils ont allumé. Et donc ça met du temps, c'est terrible, parce qu'il est brûlé vivant, et il ne meurt pas tout de suite. Et à ce moment-là, il y a eu un laps de temps, je ne sais pas combien, où il était dans les flammes, mais encore en vie, et ses élèves, en face de lui, lui disent « Mais qu'est-ce que tu vois ?» Et il répond « Je vois gvilim nisrafim veotiyot porchot ba'avir. » Je vois le parchemin brûlé, mais les lettres s'envolent.
C'est rapporté à ce
midrash. Oui, c'est dans le midrash de Ele Eskera. On lit à Yom Kippour. Ele Eskera. Sur les Asara ou Gemalchut. Et c'est Gam dans Gittin. Ah, il y a que vous lisez, pardon. Ah non, quand vous lisez à Tchaber. Tchaber. Bekitsour, nous on lit à Yom Kippourim, quand tu as raison. Bekitsour, mais c'est quoi? Ça veut dire quoi cette histoire?
C'est quoi
le Indian? Et puis d'abord, il a fait quoi pour ça? Je veux dire, c'est quand même une punition.
Oui, c'est
vrai. Hein? Alors tu vas me dire, mais non, c'est à Sarah Rougé Malchoud. Oui. Il a rien fait de mal. Moshe, il a posé la question. Pour Rabbi Akiva. Et la réponse, c'est quoi? C'est, tu peux pas comprendre, moi j'ai une idée. Mais ça, c'est pour Rabbi Akiva. On pose la question pour tous. Et à propos de Rabbi Hanina ben Teradion, il y a une réponse.
Ils vont dire, en l'occurrence, qu'ils ont piqué les Gilgulim, les 10 frères qui ont vendu Yosef.
Inechidami. Inechidami. Mais ça, c'est pas nous qui disons. C'est le Goy qui dit ça. Là-bas. Dans le Midrash, dans la Gemara. C'est le Goy qui dit, le Romain, qui dit c'est à cause de Mechirat Yosef que ce qui vous arrive, ce qui vous arrive. Ce qui est d'ailleurs évidemment faux, parce que, enfin, je veux dire, il n'a pas pu dire ça à qui que ce soit. Les Asara Arugé Malchut, ils ne sont pas contemporains. Ils s'étendent sur plus de 100, à peu près 100 ans de différence. Donc, c'est pas. Mais, il y a une vraie responsabilité quelque part. Et pour Rabbi Hanina ben Teradion, la question est posée et on donne une réponse. Lama, il a mérité ça. C'est quand même une mort terrible. Il dit parce que Aya Oge et Hashem Beotiotav. Oge et Hashem Beotiotav. Il disait le nom de Dieu, le tétragramme, tel qu'il est marqué.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Bah toi, quand tu vois Yud Kev Vav Kev, tu dis Adonai. Oui, le Mishneh. Quand tu lis, tu fais dans ton air. Voilà, la vraie prononciation du tétragramme.
Que l'on vous lit dans nos sidourim avec la vocalisation qu'il y a.
Oui.
C'est pas le vrai nom de.
Oui. Bah, la prononciation de Yud Kev Vav Kev.
Le vrai nom pour moi, c'est le Shema. Non,
c'est ça. Yud Kev Vav Kev. Le tétragramme. C'est ça. Maintenant, la question, elle est là, elle ne s'arrête pas là. Elle dit, attends. La Gemara dans Sanhedrin nous dit que Aoget Hashem Beotiotav En Lo Chelek Leolam Haba. Donc, tu ne vas pas me dire que Rabbi Hanina Ben Teradion, quoi, il n'a pas étudié. Alors, on dit non. Il faisait ça pour l'Itlamed. Pour apprendre. Il voulait apprendre. C'est quoi la prononciation du tétragramme? Ah, que de l'Itlamed Moutav. Par exemple, je veux rentrer au Sanhedrin. Une place vacante au Sanhedrin. J'aimerais bien passer des examens pour me sanhedriser. Bon, d'accord, pas de problème, mais pour te sanhedriser, il faut que tu passes aussi un examen parmi les différentes épreuves. Tu as une épreuve en Halakha, une épreuve en Gomara, une épreuve en Rav Kook, ok? Et puis tu as une épreuve aussi en sorcellerie. Ah bah oui! Nous dit le Rambam, tous les membres du Sanhedrin doivent connaître toutes les sorcelleries, les kshafim, qu'il y a à leur époque. Ben voilà, pour savoir, d'abord reconnaître si quelqu'un en fait pour la doune, et pour savoir que... Donc tu es bien obligé d'apprendre. Ah, tu n'as pas le droit de faire de la sorcellerie, mais si c'est pour apprendre, c'est bien ça d'air. Donc, pareil pour la gote et ta chembe au tiotav, tu as le droit pour apprendre. Alors pourquoi on lui en tient rigueur? Diagmara, parce qu'il faisait ça befaresia. Au lieu de faire ça chez lui dans sa chambre, il faisait ça dehors. Et donc les goyim, ils entendaient ça. Il dit, mais pourquoi il a fait ça? Il dit, parce que Rabbi Hanina ben Teradion, il voulait amener la Géoula. Arémazé le tétragramme. Je ne vais pas commencer à vous le prononcer. Mais vous savez que c'est du futur. C'est-à-dire que c'est un nom divin qui reflète une dimension qui n'est pas encore là. Ça commence par un Yud. Ron, c'est la dimension du futur. Donc si tu veux dévoiler quelque chose dans le présent, mais qui n'est pas encore de la dimension du présent, c'est-à-dire que tu veux amener la Géoula trop tôt, c'est pas le moment, ça peut avoir des conséquences terribles. Donc c'est ça que nous dit ici le Rav Kook. C'est-à-dire, Vebasov, PR, FR, Slicha, Tachat, PR. Il y a eu la cendre à la place de l'éclat. Et ça, c'est toute notre réalité durant l'exil. Les amis, deuxième mi-temps de la Pisca Yud. Je ne sais pas, dans la cuisine ou dehors. Où vous voulez, quoi. Mais Kitzo, on fait la pause. Et ensuite, la deuxième mi-temps de la Pisca Yud. C'est parti.